Allô, passez-moi Amber. Amber. Amber, la ville d'Amber. Vous êtes sourd ou quoi?
Donc ce soir, en fait, c'est notre 90e Utopiade. Un thème que sûrement on a déjà traité, mais par contre, il y a tellement d'angles pour traiter ce thème du jardin, de nos sols et de les rendre vivantes, surtout de les restaurer, malheureusement, bien trop souvent. Ce thème, on l'a déjà un peu abordé, mais franchement, ce soir, on va aller plus au fond des choses et surtout grâce à Aymeric et Nicolas d'Amber Livre la Forêt. Ça, j'ai oublié de mettre le logo d'ALF. Ce qui est pas... Je l'ai mis sur les affiches, mais je ne l'ai pas mis sur la diapo. Donc, je m'excuse auprès de Nicolas. Oui, c'est bon, vous avez... auprès de Nicolas et auprès d'Aymeric. Donc, cette soirée, en fait, elle fait suite à quatre visites qui ont été organisées. Alors, trois dans des fermes et une... dans un lieu géré par des particuliers de façon permacole. Et donc l'idée, c'était après ces visites, qui participent à un événement national qui a été lancé par, je crois que c'est la troisième édition, je me trompe ou pas, non ? À peu près, on s'en fout, hein. Par le RCC, c'est-à-dire le Réseau Compost Citoyen, un événement national qui s'appelle la Fête du Sol Vivant. Et donc l'idée, c'était vraiment pour l'équipe d'ALF de saisir la balle au bon et d'en profiter pour à la fois faire des visites, mais aussi en fin de visite, donc aujourd'hui, de prendre le temps de vous accueillir, d'avoir donc un invité, ça aurait dû être une invitée, c'est Céline Pilvan, Céline son prénom ? Ouais, Céline Pilvan, mais qui appartient à la même SCOP, la SCOP des Épigées, donc vous êtes à Chambéry, la SCOP. Et toi, t'es sur Issoire. Voilà. Et donc, du coup, Pierre Fels va remplacer Céline, mais soyez absolument pas inquiets. C'est quelqu'un qui connaît le sujet sur le bout des doigts. C'est quelqu'un aussi qui connaît bien notre territoire, parce qu'on le voit souvent parmi nous quand il y a des occasions de formation pour savoir faire un bon compost en particulier. Voilà, et surtout arriver à gérer ce trésor que sont les déchets verts et non pas qui devraient absolument pas se retrouver dans nos déchetteries. Et donc, on va avoir une première partie avec Pierre qui va aller un petit peu au fond du sujet. Donc, je ne vais pas déflorer ton programme et les différentes parties de ton intervention. Et puis après, on aura une table ronde qui va être donc animée par Radio Super. Et ça y est, j'ai un trou. Ton prénom ? Gaston, excuse-moi, Gaston. Donc là, pour aller encore un peu plus loin, donc avec les invités, avec Pierre, bien sûr, tu vas pas nous abandonner en deuxième partie. Maxime, tu vas sûrement nous rejoindre, Maxime, donc qui fait partie des fermes qui ont été visitées, donc la ferme de Croque Jardin, pardon, excuse-moi, Bertigna. Voilà, et ce sera l'occasion d'aller plus loin pour répondre à vos questions. Donc il y aura de toute façon, après l'intervention de Pierre, déjà un premier aller-retour de questions-réponses, que surtout on essaie d'éviter que vous partiez avec des frustrations. Et puis il y aura cette deuxième partie, table ronde, qui va encore bien sûr, et qui est faite pour accueillir aussi vos questionnements. Et puis pour les personnes timides, on a ce petit papier rose d'ailleurs qui est là pour inscrire les questions que vous auriez bien aimé poser, mais par contre votre timidité peut-être fait que prendre le micro c'est peut-être pas votre tasse de thé, donc du coup vous pouvez l'écrire. Et là je vais essayer de faire mieux que les autres Utopiades où j'avais lancé cette initiative, c'est qu'en fait on a des personnes, elles n'étaient pas très nombreuses, qui avaient quand même inscrit deux questions, et en deuxième partie j'ai complètement oublié de les citer, donc c'était pas cool. Voilà, mais ça c'est plutôt le stress. Et là, j'ai aucune raison d'être stressé parce qu'on est nombreux et donc ça devrait se passer comme il faut. Voilà, donc ça c'est parti. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre pour terminer et laisser la parole à Pierre et changer d'écran. Donc cette Utopiade, qu'est-ce qu'elle a de différent? Pas grand-chose, si ce n'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ça y est, j'ai un trou. Excusez-moi. Je crois qu'on va y aller. Donc, du coup, on va changer l'écran et donner la parole à Pierre. et surtout que la soirée soit belle pour tout le monde, qu'elle soit instructive comme toutes nos utopiades, et que surtout on ait le plaisir de vous revoir aux prochaines, puisque là on a un programme très chargé cette fin d'année, puisqu'on a 3 utopiades en un mois, ce qui n'est jamais le cas, mais c'était pour rattraper un petit peu ce qui ne s'est pas passé au premier semestre. Donc là, on s'est dit quand même, il faut qu'on respecte notre public et que derrière, on réenclenche le processus des rendez-vous. Voilà. Pierre, un grand merci à toi d'intervenir. Je sais que tu vas te présenter, nous dire d'où tu viens, de quelle planète. OK. Et donc, d'accord. Et je vais te laisser le micro. Donc on est parti pour 1h30, et donc dans 1h30 ce sera la petite pause tartinade d'une demi-heure, et après on attaque la deuxième partie. Ok ?
Radio super, la radio qui est l'enfer super !
Merci beaucoup pour votre accueil, l'association bien sûr, Gérard, et puis Amber Livradois-Forez. Donc on est parti, alors, je vais essayer de faire en moins d'une heure et demie. D'accord, pour qu'on reste vif et surtout qu'on puisse prendre le temps de... Alors, dans 1h30, il y a bien sûr les questions-réponses. Hein. Moi, je vais essayer de faire en moins d'une heure. Donc, ça va être un petit défi que je me lance. Parce que quand on parle de jardin, parce qu'on est là pour parler de jardin quand même, on peut vite être bavard, surtout avec un parterre de jardinières et jardiniers. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Pierre Fels, je suis un formateur jardinier et je suis co-gérant de la SCOP Les Épigées. Alors la SCOP Les Épigées, hop, vous voyez le logo ici en haut, qui, comme l'a dit Gérard, on est basé sur 2 départements, la Savoie et le Puy-de-Dôme, on est aujourd'hui 10 salariés. Je ne sais pas si tout le monde connaît le statut des SCOP, sociétés coopératives et participatives. Ce sont des entreprises, en fait, tout simplement, mais qui appartiennent à ceux qui y travaillent, donc aux salariés, avec un principe de gérance partagée, ou en tout cas de participation dans les prises de décision, et avec des principes surtout coopératifs dans la visée que l'on a de notre travail, en interne comme avec les partenaires avec lesquels on travaille. Voilà. Donc la SCOP Les Épigées est très préoccupée, et c'est le cœur de notre activité, par la question de la matière organique et par le retour au sol de la matière organique. Donc on va en parler de la matière organique. On travaille avec les collectivités, on fait de la formation aussi beaucoup. On accompagne les collectivités sur les projets de compostage, de jardin partagé, de jardin pédagogique, les collectivités et les entreprises, et puis aussi les établissements éducatifs. Pardon. On fait de la formation, donc ça c'est une de mes fonctions principales, autour des jardins, autour de la gestion des 10 déchets verts. Voilà. On a pour certains, mais j'avais pas assez de flyers, un cycle d'événements, un cycle événementiel qui s'appelle le cycle des sols nourriciers avec des conférences, des webinaires. Et puis on a, c'est un peu moins connu par le grand public, mais c'est quand même quelque chose qui est connu au niveau national, une application, un logiciel professionnel qui s'appelle Logiprox, qui aide les collectivités à gérer les sites de compostage partagés, puisque vous avez certainement dans vos communes, puisque ALF est très avancé là-dessus, je regarde Émeric et Nicolas, Amber Livradois-Forez est très avancé sur le développement du compostage de proximité, pour lequel on travaille beaucoup. Voilà. Donc, nous allons... Et puis un petit mot, je suis jardinier, parce que je vais parler de choses que je connais. Donc moi j'habite du côté d'Issoir, je ne viens pas de très très loin. Je suis très très préoccupé au jardin par la question de la place du végétal et de ce qu'on appelle les déchets verts, on va en parler. Mais je suis surtout très occupé par la vie, la biodiversité, la vie dans le jardin, qui fait qu'on est des jardinières et des jardiniers heureux d'être dehors, les mains dans la terre. Et puis la vie du sol. Je suis passionné par le sol, ce qui se passe sous nos pieds, qui est très important pour notre survie. C'est pas un gros mot que de le dire, c'est même essentiel. Et donc c'est ce qu'on va prospecter, visiter un peu aujourd'hui. On va partir du sol, on va partir après de la vie du sol, ensuite on fera un petit focus sur ce qu'est la matière organique dans nos sols, ce qu'elle peut apporter, ce qu'un sol vivant peut apporter aux jardinières, aux jardiniers. Et puis après, on verra comment mieux gérer ces 10 déchets verts au jardin. J'ai une dernière petite chose à dire, c'est que je travaille pour une collectivité, je produis des semences de fleurs sauvages. Donc je fais de la production de semences de fleurs sauvages qui vont, je ne vais pas vous développer tout le projet, mais on pourra en discuter si vous voulez lors de la tartinade, qui vont ensuite partir dans les collectivités pour fleurir les pieds de mur, les pieds d'arbres. Plutôt que de désherber, cette collectivité a fait le choix, le syndicat mixte des vallées de la Vère et de l'Ozon, a fait le choix de fleurir avec des espèces sauvages nos espaces habités, pour, entre autres, le plaisir des fleurs, mais aussi pour la biodiversité et les insectes qui peuvent être attirés. Voilà, donc c'est parti pour ce petit moment de présentation. Donc on va découvrir d'abord ce qu'est le sol, le rôle des matières organiques dans les sols, ce que ce sol vivant offre comme service aux jardinières, aux jardiniers. Bien sûr, on va parler des déchets verts et comment ces déchets verts, on va pouvoir les considérer autrement pour qu'ils participent, à la richesse et à la santé des sols de nos jardins. Et puis, je vous proposerai de réfléchir sur cette petite question entre compost, paillage et engrais vert. Comment, dans nos jardins, favoriser une bonne fertilité pour le plaisir du jardinier, mais aussi pour, évidemment, la santé des plantes et la production. Alors on commence par le sol et on va commencer par visionner 3-4 minutes d'un extrait d'un film qui s'appelle Planète Colambol, qui est actuellement visible sur Arte. C'est un film qui est long, qui dure 46 ou 50 minutes à peu près. Nous, on va se contenter de regarder à peine 5 minutes, plutôt vers la fin, où on parle du cycle de la matière organique. Et c'est là que la technique doit fonctionner.
L'automne est là. C'est une période d'abondance pour la microfaune du sol. Les feuilles mortes que Prévert ramassait à la pelle sont une manne qui tombe chaque année. Les bestioles réfugiées dans les profondeurs du sol remontent à la surface. La gigantesque coopérative de recyclage de la matière morte, sol et associés, entame une nouvelle campagne. Les très petits, les moins petits, les minuscules, les longs, les secs, les gluants, tout le monde s'y met. La masse organique qui constitue le sol d'une forêt est considérable. La litière est la partie supérieure. C'est un millefeuille de débris végétaux pas encore décomposés. De cadavres d'animaux de toute taille, de poils, de plumes, de crottes, de bouses. Tout doit disparaître et se fondre dans l'humus. Chaque espèce joue sa partition. Les vers de terre, les termites, les fourmis se chargent du terrassement. Ils avalent la terre, la transportent, la rejette, creuse des galeries, maçonne des terriers. Les forages aèrent les sols, mélangent les matières organiques de diverses natures, facilitent la pénétration des eaux de pluie. La structure des sols s'améliore, leur stabilité aussi. Les colamboles, les acariens et les vers nématodes sont des régulateurs. Ils empêchent qu'une prolifération excessive de bactéries et de champignons microscopiques ne dégrade le milieu. Sans eux, les sols de nos forêts seraient couverts de moisissures et de micro-champignons qui nuiraient à la végétation en l'empêchant de croître. Le régime alimentaire des colomboles est très varié. Ils mangent un peu de tout ce qui fait d'eux des omnivores, comme l'homme et le cochon. S'ils raffolent des hyphes mycéliens de champignons, ils peuvent manger aussi des bactéries et des algues croissant sur la matière organique en décomposition, des végétaux vivants ou du pollen. Le recyclage tourne à plein régime.
Mais long, mais c'était un petit extrait pour s'immerger dans le sol. Voilà, on y est. Merci. Donc c'était cette idée de s'immerger dans le sol et de voir la vie qu'il y a dans le sol. Tout doit disparaître, comme information la voix dans le film. Je voulais, pendant 5 minutes, juste qu'on s'intéresse un peu à cette diversité qu'il y a dans le sol, mais surtout à ce monde. Je vous ai montré ici une image de ce qu'on a vu dans le film tout à l'heure. Et puis, à gauche, vous avez les grands groupes d'espèces, entre les colamboles, les vers de terre, les nématodes. Toutes ces espèces qui fabriquent cette matière, qui fabriquent le sol, qui sont responsables de bien des services qui vont rendre au sol, comme la dépollution, comme la transformation de la matière organique en éléments minéraux. Et donc, vous avez ici quelques espèces qui représente au niveau de la planète, de la biodiversité terrestre sur la planète, 60% des espèces est dans le sol. Quand on parle de biodiversité, on a cette image d'une diversité végétale et animale. Alors là, je parle bien des deux modalités, de tous les types d'animaux et de végétaux, mais on a 60% d'espèces qui sont dans le sol. Vous voyez ici les formes de donuts là, qui représentent, par exemple, vous voyez là, la moitié des bactéries, il y a des milliers d'espèces de bactéries sur Terre, sur notre planète, la moitié est dans le sol. Si on prend les vers de terre, bon, pour les vers, c'est évidemment surtout dans le sol, mais même pour, par exemple, les mollusques, vous voyez, une bonne partie quand même qui est aussi dans le sol. Et toute cette variété, toute cette diversité de vie fabrique le sol. Il y a de la diversité en espèces, il y a aussi de la diversité en poids. Les scientifiques sont amusés à peser, à calculer la masse de ce qu'il y a sous le sol sur un hectare. On s'est rendu compte qu'il y avait en micro-organismes, c'est-à-dire tous les petits êtres vivants, invisibles à l'œil nu, il y en a 5 tonnes par hectare. C'est-à-dire que vous prenez 100 mètres sur 100 mètres dans le sol, c'est-à-dire la profondeur de ce qui nous sépare de nous quand on est en surface jusqu'à la roche mère, au matériau parental, on a 5 tonnes de micro-organismes. Ça fait à peu près 100 moutons. Si on regarde les racines des plantes, on est à 5 tonnes aussi, 100 autres moutons. Si on regarde les animaux plus gros, les macros, là, ce qu'on appelle la méso et macrofaune, les vers de terre, on est à 1,5 tonnes. Ça fait 20 moutons. C'est-à-dire que sur 100 mètres par 100 mètres, un hectare, on a l'équivalent en masse de 220 moutons. Si je dis ça, c'est parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance de la vie qui se fabrique là sous nos pieds et qui est bien supérieure à ce qu'on voit au-dessus. Voilà, c'est tout simplement pour évoquer ça. Et alors, on l'a vu dans le film, toute cette vie dans le sol, elle va vivre parce qu'il va y avoir un carburant qui est la matière organique des sols. Alors, on va regarder quelques éléments ici. Vous voyez, en haut, on se rend compte que dans un sol, donc le sol, je redis, hein, c'est ce qui est sous nos pieds, là, d'accord, et qui va être fabriqué avec des éléments minéraux, oui, beaucoup, 80 à 99%, mais aussi un peu de matière organique, entre 1 et 10%, selon les sols, selon les terres. Nous, on va s'intéresser tout de suite à ce 1 à 10% de matière organique, et on va voir que dans cette matière organique, c'est beaucoup, beaucoup de matière organique morte, comme ce qu'on voyait dans la forêt tout à l'heure. Cette matière organique morte, c'est 95% de ce qu'il y a dans le sol. Alors, matière organique, au fait, c'est tout ce qui a été ou est vivant. C'est composé de carbone, d'hydrogène, d'azote, de phosphore. C'est la définition la plus exacte qu'on puisse donner de la matière organique. C'est tout ce qui a été ou est vivant. Animaux, végétaux et autres espèces. Les organismes vivants, eux, ils représentent une petite partie, 5%, mais le gros de cette petite partie, c'est des micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et puis, quand on regarde... Ah, pardon. Voilà. Et quand on regarde la matière organique morte, 95%, on va avoir des molécules organiques qui sont très petites, qui sont stockées, qui sont difficilement dégradées. Et puis, on a une matière organique particulière, un peu plus grosse, qui, elle, va servir de nourriture aux êtres vivants. Si je vous dis ça, c'est parce que finalement, on se rend compte que notre sol, qui est très minéral, a besoin, pour que se développent tous les êtres vivants qu'on a vus un peu plus haut, là, qui sont responsables de la vie, il a besoin de matière organique, de tout ce qui a été ou est vivant, donc du végétal, de l'animal. Ces micro-organismes, on les connaît, on en a déjà cité, les champignons, les bactéries, des centaines d'espèces de bactéries dans le sol. À quoi elles servent, ces espèces de champignons microscopiques, de bactéries? Elles servent à minéraliser la matière organique. C'est ces micro-organismes qui vont, par leur processus, dégrader cette matière et libérer des éléments minéraux, des sels minéraux dont se nourriront les plantes. Mais ces êtres vivants, les microbes en fait, hein, c'est ça, sont aussi responsables de la régulation des populations pathogènes. Il peut y avoir des maladies qui sont inhibées, empêchées par toute cette vie, par ces bactéries, ces champignons qui mangent, qui détruisent. Elles vont aussi participer à la structure du sol. La structure du sol, c'est la façon dont le sol est construit entre les différentes parties du sol, les sables, les limons, les argiles. Vous avez peut-être, enfin, en tout cas les jardiniers, aiment bien avoir une structure grumeleuse. Vous devez connaître ça, hein, quand on a envie de travailler, on a envie que les plantes poussent, on aime que la terre soit légère, un peu comme un couscous. Je ne sais pas si l'image vous parle. Et cette terre légère, dans laquelle il y a de l'air, dans laquelle il y a de l'eau, elle vient du fait qu'il y a des bactéries en particulier qui vont, en se nourrissant de matière organique, émettre des petites substances, des petites colles qui vont agréger les particules entre elles et former ce petit couscous de terre. Donc c'est les bactéries qui, en se nourrissant de matière organique, participent à cette structure. Et puis bien sûr, tous ces êtres vivants, ils stockent du carbone puisqu'ils sont constitués d'atomes de carbone. Donc c'est un bon stockage de carbone. Vous savez qu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui avec les problématiques de changement climatique. Et puis comme pour les régulations de populations pathogènes, les bactéries et les champignons régulent certaines maladies de plantes que peuvent avoir les plantes. La faune du sol, là vous voyez différentes espèces. Il y a un cloporte ici, le fameux colambole qu'on a vu tout à l'heure, décompose la matière organique, vont brasser les minéraux et les matières organiques, vont lier les matières organiques et les matières minérales, vont libérer de l'azote, du phosphore, du potasse pour les plantes, fragmenter la matière organique. Bien sûr que ces êtres vivants, si on parle des cloportes par exemple, ils vont participer à la dégradation, à la fragmentation des petits brins de plantes qui vont tomber sur le sol. Et puis donc du coup, ils vont augmenter la porosité. La porosité, c'est les espaces d'air et d'eau qui peut être aussi occupé par l'eau, qu'on va avoir dans un sol. Et ce qui est intéressant avec la faune du sol, qui le fait mieux qu'un labour en termes d'espace d'air, c'est que cette faune du sol, elle va participer à la microporosité et à la porosité moyenne, la mésoporosité, c'est-à-dire des trous pas trop gros, pas trop petits, mais c'est ces trous-là qui vont permettre à l'eau d'être retenue dans le sol. Et donc, c'est grâce à ces animaux-là, à ces animaux-là, qu'on va avoir de l'eau qui va être stockée dans le sol et accessible par les plantes. Là aussi, la faune du sol participe à une régulation des populations végétales et microbiennes, puisque ça va fonctionner par assainissement de ces populations qui peuvent être problématiques pour nos plantes cultivées. J'aime bien cette image. Là, ce sont des photos, des dessins qui ont été faits aux Pays-Bas, à l'université de... Je ne prononcerai pas. Qui représentent bien la place des racines des plantes. Ce n'est pas exagéré. Hein. Vous voyez, là, on est à 2 mètres. Vous connaissez forcément cette espèce, la luzerne, qui a un système racinaire très, très long, très plongeant, ce qui en fait d'ailleurs une plante assez difficile à s'en débarrasser, pour ainsi dire, quand on est jardinier, quand on n'a pas des outils qui viennent couper la racine très profondément. Les racines des plantes amènent de la matière organique. Tout ça, regardez là, tout ça, c'est du végétal qui, à un moment donné, va mourir, va se dégrader, va être mangé par les micro-organismes. Donc, quand ça va mourir, ça va laisser des petits espaces d'air et ça va participer à l'aération du sol. Aération du sol indispensable pour la vie des micro-organismes, des vers, mais aussi pour que les plantes puissent pousser, tout simplement, les racines puissent pousser. Ça va permettre de décompacter le sol. Les paysans savent bien ça. Hein. La luzerne, comme d'autres espèces, permettent au sol d'être décompacté, c'est d'être aéré. Ça va permettre un drainage, c'est lié. Et puis, il va y avoir un phénomène au niveau des racines qu'on appelle la rhizodéposition. Alors, rhizo, ça vient de racines, et déposition, c'est des dépôts. C'est cette idée qu'au niveau des racines, il y a toute une vie qui va se développer parce que les racines vont envoyer des sucres au niveau des petites racines. Il y a toute une vie qui va se développer. Ces sucres vont être consommés par les micro-organismes. Donc, plus on a de racines dans nos sols de jardin, plus on envoie des sucres, en particulier riches en carbone, au niveau des racines, et plus on va développer dans l'environnement proche des racines de la vie. Et parfois, ça va même au-delà de l'environnement propre des racines, puisque aujourd'hui, on a quelques scientifiques qui commencent à dire « Ah, mais les racines, dans l'évolution, ne sont pas arrivées pour que les plantes se nourrissent, parce qu'en fait, il n'y a pas tant d'éléments minéraux accessibles ici pour des plantes qui peuvent être très gourmandes. Les racines, c'est surtout un support pour que des champignons viennent s'accoler au niveau des racines, des filaments des champignons, et se développer très loin, très très loin dans le sol, donc sous forme d'une association, ce qu'on appelle les mycorhizes. Et donc forcément, tout le monde y gagne quelque chose. Les champignons vont aller chercher de l'eau pour la plante, et les racines, elles vont apporter du carbone, ce que je vous disais tout à l'heure, des sucres riches en carbone pour les champignons. Et donc aujourd'hui, on peut avoir un espace ici de racines qui est assez limité, mais si on regardait tout ce qu'offrent les champignons qui s'associent aux racines parce qu'elles pénètrent au cœur des racines, même pour certaines mycorhizes, ça va aller, les champignons vont aller chercher très loin, très très loin, des éléments intéressants pour le champignon, en particulier des éléments minéraux et de l'eau. Voilà, pour terminer là-dessus, ce petit schéma nous représente, les textes n'ont pas beaucoup d'importance, c'était simplement pour vous montrer en 3D la place du sol, des racines dans un espace végétal. Alors, les principes d'un sol vivant, si on retient ce que je viens de dire de façon un peu rapide, c'est d'avoir des matières organiques abondantes. Matière organique, c'est le carburant, c'est ce qui va nourrir la vie du sol. Par de la matière organique morte, on en parlera tout à l'heure, du paillage, certains d'entre vous pratiquent. Vivante, c'est des plantes, qu'elles soient aériennes ou souterraines, c'est les racines, ou qu'on laisse en surface, la matière organique qu'on va laisser en surface. Et puis, le principe d'un sol vivant, c'est aussi de limiter le travail mécanique du sol. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, vous avez vu toute cette vie, en particulier les champignons, les filaments, les mycéliums des champignons, sont détruits quand on fait des travaux trop brutaux du sol, type labour profond. On va déchirer le tissu filamenteux des champignons qui vont rendre du mal à se reconstituer. Donc, le sol, c'est une communauté vivante à développer, c'est ce que j'ai noté ici, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que le sol est un support neutre, mort. Il doit être porté pour être vivant par des nourritures qu'on apporte. On a hérité d'une culture qui n'est pas si vieille que ça, de sols propres pendant l'hiver. Vous savez, les sols où on pense que la terre se repose. Mais en fait, la terre, si on voit la terre, s'il n'y a pas de plantes sur la terre pendant l'hiver, la terre s'épuise au contraire, elle ne se repose pas. La terre ne se régénère, le sol ne se régénère que parce qu'il y a des plantes qui fabriquent cette vie-là. Donc un sol avec des plantes ne s'épuise pas, au contraire, il s'enrichit et il participe. Et les plantes participent à la vie du sol. Alors, donc, on en vient justement, les plantes participent à la vie du sol, et donc nous, jardinières, jardiniers, on va essayer de faire en sorte d'apporter le plus possible de ces matières organiques, alors mortes ou vivantes, pour développer une communauté microbienne, une communauté d'êtres vivants, même pas des microbes, un peu plus gros, afin d'avoir, entre autres, des éléments minéraux qui seront captés par les plantes. Entre autres, ce n'est pas le seul service qui va être rendu. Alors, parlons des déchets verts, puisqu'on est là pour ça. Alors, je fais un petit temps de... Sur l'horaire. Voilà. Déchets verts. On va voir qu'on va essayer quand même de l'appeler autrement. Alors, on parle de plus en plus de déchets végétaux aussi maintenant, parce que la couleur n'est pas suffisante pour le caractériser. C'est une terminologie qui est évidemment très liée au fait qu'on se retrouve avec des quantités de végétaux dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui dans nos sociétés. Alors, on va définir de façon très formelle les déchets verts. C'est tout ce qui résulte de l'entretien ou de la création d'espaces verts publics ou privés. D'accord ? Donc, c'est les déchets qu'on a dans nos parcs et dans nos jardins, à l'échelle de collectifs, les collectivités, ou à l'échelle des particuliers que nous sommes. Alors, on a d'une part les végétaux ligneux. Ils sont plutôt fibreux, c'est la présence de lignine. La lignine, c'est ce qui constitue le bois, ce sont des molécules très très complexes, très dures, qui sont d'ailleurs très complexes à détruire, et seuls les champignons arrivent à détruire ces molécules. C'est ce qui compose le bois, et ça se dégrade lentement. Plus lentement, en tout cas, que les végétaux non ligneux, qui sont les résidus de tonte, de désherbage, de feuilles, de fleurs. En général, ces déchets-là sont plus riches en eau, en azote, et ils se dégradent vite. C'est intéressant de caractériser ces déchets verts par ces deux catégories parce qu'on va voir qu'elles participent à la vie du sol d'une façon différente. Alors, évidemment, il n'y a pas une ligne stricte ici entre le vert et le brun. Hein. Une feuille morte qui vient de tomber, c'est quoi cette partie ligneuse, cette partie moins ligneuse. Donc ça se caractérise en agronomie par différentes mesures, entre autres ce qu'on appelle le rapport entre les quantités de carbone et les quantités d'azote, qui sont deux principaux constituants des matières organiques. Alors, ne vous inquiétez pas en voyant ce tableau qui paraît un peu complet, mais je trouvais quand même intéressant d'avoir des mesures et des données récentes qui ne sont pas faciles à trouver sur ce qu'on produit, ce que les humains produisent en termes de dits déchets verts par surface ou par linéaire d'arbres ou de haies. D'accord ? Donc, j'ai trouvé dans des documents assez récents, ici, une typologie des matières, gazon, feuilles, branches d'élagage sur des petites communes et branches d'élagage sur des grandes communes, vous verrez qu'on n'a pas les mêmes éléments, et déchets de taille de haies et d'arbustes. La production mesurée, qui est, par exemple, pour le gazon mesurée en hectares, ou pour les feuilles, les branches, qui est mesurée par 1000 arbres, c'est des moyennes nationales. Pour les déchets de taille de haies et d'arbustes, c'est mesuré pour 100 mètres. Et puis moi, j'ai rapporté ça en calculant les densités. Donc, je vous passerai des calculs de densité par rapport au volume en fonction des déchets. Mais regardez juste pour citer, par exemple, le gazon. Et ça va être intéressant parce que ça va pouvoir nous rapporter à nos pratiques personnelles. Au niveau du gazon, on est en moyenne à 500 grammes par mètre carré et par an de production. Alors, évidemment, ça dépend si on habite en Berne, Nice, mais en général, c'est en moyenne, d'accord ? Donc, ben voilà, si vous avez 1000 mètres carrés, ça veut dire que si vous passez la tondeuse pour avoir un gazon bien tondu tous les ans dans une année normale, ça vous fait 500 kilos, d'accord ? 500 kilos de gazon. Pardon. Si on regarde au niveau des feuilles, pour un arbre, alors pareil, on pourrait s'interroger sur ce qu'on appelle un arbre. Là, on parle donc d'arbres adultes, feuillus. On est en moyenne à 32 kg par arbre et par an. 32 kg de feuilles avec les extrêmes qui ont été mesurés de 15 à 55 kg, selon évidemment les espèces aussi. Hein, d'accord ? Les petites branches. Alors, on regarde les branches maintenant. Petite commune, grande commune. Bon, ça, c'est des travaux qui ont été faits sur les communes. On est à 57 kg par arbre et par an, jusqu'à 136 kg par arbre et par an. De branches. C'est lourd. Hein, voilà. Et on regarde la déchets de taille de haies et d'arbustes qu'on a tous, enfin tous, on l'a peut-être pas tous, mais nombreux sont ceux d'entre nous qui ont ça quand on a une maison à la campagne. Les déchets de taille de haies et d'arbustes, on est à 17 kg par mètre linéaire et par an. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup. Moi, ça me paraît toujours beaucoup. J'ai vérifié, c'est des chiffres qui sont assez fiables. En tout cas, ça veut dire que si on a le souci de se débarrasser de ces matières quand on est jardinier, on passe du temps en déchetterie. On est d'accord. Ça veut dire qu'on va enlever ces matières de nos jardins, les mettre dans nos remorques, les mettre dans des sacs, les amener dans des déchetteries. On attend en général dans des déchetteries. Je ne critique pas les déchetteries du territoire. Hein. C'est pour sur tous les territoires pareil. On attend beaucoup et on va revenir dans notre jardin en se disant, tiens, maintenant, il va falloir penser à nourrir le sol de notre jardin. Donc, je vais aller acheter des fertilisants, du terreau, etc. Et on a vu, nous, juste avant, qu'un sol vivant qui va être responsable de la fertilité, d'une fertilité, il a besoin de matière organique. Il a besoin de ses déchets pour nourrir la faune du sol. Donc, l'idée qu'on a, c'est de se dire, eh ben, on va, quand on est une collectivité et qu'il y a des coûts qui sont liés à la gestion des déchets, ou quand on est un particulier jardinier et qu'on a intérêt à pas trop rouler sur les routes pour amener nos déchets dans des bennes qui repartent plus loin, être traités plus loin, on va essayer de diminuer le plus possible ces déchets. Et donc ça, c'est un schéma que j'ai repris, un schéma territorial de gestion des déchets organiques sur le territoire du Puy-de-Dôme, qui a une déclinaison sur le territoire ici d'Ambert-Livre-d'Enforez. Quand on parle de déchets végétaux, on va d'abord chercher à éviter de les produire. Il y a des gazons qui poussent trois fois moins vite que d'autres. Il y a des arbres qui, étant plantés au bon endroit, n'auront pas besoin d'être taillés trop souvent. Vous connaissez tous les linéaires de laurier-palme, laurier-cerise, certainement, qui nécessitent des tailles régulières, une fois, voire deux fois par an. Peut-être que cet arbre, c'est juste dommage de l'avoir mis en haie pour aller passer du temps à enlever de la matière. D'accord ? Donc la première des options qu'on doit avoir, c'est de se dire comment éviter de produire cette masse pour limiter les déchets en déchetterie, en transport. Ensuite, c'est comment valoriser sur place tout ça. On est plein de jardinières, de jardiniers ici. On connaît forcément les techniques de paillage. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis simplement, en dernier recours, on va en déchetterie quand on ne sait pas quoi en faire, quand on n'a pas les possibilités de les traiter. Alors, en déchetterie, au niveau national, et sur la table ronde tout à l'heure, on posera la question à Nicolas et Aymeric. En tout cas, au niveau national, on amène, nous particuliers, en moyenne, 60 à 90 kilos par habitant et par an de déchets verts en déchetterie. D'accord. Donc on amène quand même une quantité assez importante. Alors, on va passer en revue les différentes, et puis je vous propose quelques photos. On va passer en revue les différents déchets qu'on va avoir. Les tontes. Ah, les tontes. Qu'est-ce qu'on peut en faire des tontes ? Si je vous parle de mulching, de paillage, de compostage ou de gestion différenciée des tontes, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Oh oui. Le compostage et le paillage, oui. Vous paillez avec des tontes ?
Eh bien, oui.
Eh bien, c'est très bien. Mais c'était pas une. On en parlera. Le paillage avec les tontes est très intéressant. Alors, si on veut d'abord éviter, à les valoriser in situ, on va essayer d'éviter évidemment qu'elles poussent trop vite, d'accord ? Mais bon, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, on peut pailler avec des tontes en petite épaisseur, hein, dans n'importe quel espace jardinier. Quel va être le bénéfice de cette tonte dans le jardin ? Est-ce que certains l'ont observé ? Dans un jardin potager ou sous un jardin d'agrément. Le bénéfice de cette tonte en paillage, en petite épaisseur, pas trop gros, parce que quand même, après, ça pose des petits soucis. Le bénéfice, pardon ? Alors, d'une façon générale, par le paillage, on arrose beaucoup moins, effectivement, ça c'est sûr. On va protéger le sol des rayons solaires, on va protéger le sol de l'évaporation excessive, mais... Et puisqu'on parle du gazon ici, en paillage, il a une autre fonction. C'est comme c'est une matière très tendre, très riche en azote, il va stimuler l'activité microbienne du sol, en particulier l'activité des bactéries. Et donc, ils vont libérer assez rapidement des éléments minéraux. C'est une forme de matière qui va apporter rapidement une fertilisation. Et grâce à la petite colle que les bactéries fabriquent, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles vont améliorer la structure du sol. Vous paillez avec des tontes pendant tout un été vos tomates, vous remarquerez qu'à la fin de l'été, printemps et été, votre sol sous les tomates, je parle des tomates, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, beaucoup plus grumeleux. Voilà. Donc le paillage, ça fonctionne avec les tontes. Bon, le mulching, est-ce que c'est un terme que tout le monde connaît ? Non. Le mulching, c'est le fait de laisser l'herbe, de tondre et de laisser l'herbe sur place. D'accord ? Alors, il y a exactement deux façons de faire. Il y a, avec une tondeuse classique, c'est ce qu'on appelle plutôt le laisser sur place. Donc, ça laisse des gros brins d'herbe. Ça peut poser problème quand l'herbe est un peu haute, ça fait beaucoup de matière, ça fait un peu un tapis. Et le mulching, c'est des tondeuses spéciales, on peut rajouter un kit, qui va faire que la tonte, elle va être broyée plusieurs fois, elle va tourner plusieurs fois dans un carter, et donc elle va être réduite en petits brins. Et donc, du coup, elle va avoir l'aspect après le passage de la tondeuse mulcheuse fait qu'on voit peu, beaucoup moins l'herbe que simplement avec une tondeuse classique. L'intérêt du mulching, il est de laisser l'herbe sur place. Ça, c'est bien. L'inconvénient ou l'intérêt selon comment on se place, c'est quoi ? Si on amène beaucoup d'herbe dans l'herbe, ça repousse. Hein ? Ça repousse parce que ça veut dire qu'on amène un élément de fertilisation. Ça revient à ce qu'on a dit depuis le début. D'accord ? Donc ça peut être une limite. Et l'autre limite, c'est comme on amène beaucoup de fertilisation et qu'on va enrichir notre sol en azote, on va favoriser le développement des espèces plutôt monocotylédones, c'est-à-dire des herbes. D'accord ? Au détriment des herbes, des plantes à fleurs. Et pour les jardiniers qui aiment bien les fleurs, c'est un peu plus problématique. Mais l'intérêt, c'est qu'on ne ramasse rien. Okay ? Alors, ce que je vous propose, c'est que je ne prends pas trop de questions tout de suite, mais retenez-les, ou si vous avez peur de ne pas les retenir, il y a les petits papiers roses que Gérard nous a distribués tout à l'heure. Les tontes en compostage, pour moi, ce n'est pas du tout la meilleure idée, parce que ça nécessite... Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas, c'est efficace, mais ça nécessite pas mal de soins. C'est-à-dire qu'il va falloir amener beaucoup de matière brune pour faire un compost équilibré. Quand on tond, on a beaucoup de matière. C'est souvent l'été. On n'a pas forcément beaucoup de matière brune, des feuilles mortes, des brindilles broyées. Donc, ça fonctionne bien, mais c'est beaucoup de... Je trouve que c'est beaucoup d'efforts. Et puis, il y a bien sûr tout ce qu'on veut, ce que je qualifie... Enfin, ce n'est pas moi qui le qualifie. Cette gestion différenciée, c'est-à-dire gérer différemment les espaces tondus en fonction des usages qu'on veut avoir des espaces. D'accord ? Par exemple, on peut avoir des coupes hautes. Alors, hop, pardon, je vais avancer un petit peu. Ici, par exemple, on a une fauche tardive qui va permettre au printemps, si on se retient un peu de sortir la tondeuse trop tôt, on va laisser fleurir des espèces. Vous voyez, c'est des espèces tout à fait simples, je dirais, mais qui sont riches pour la diversité de vie. Donc déjà, on peut ne pas tondre trop souvent. Ou alors, d'avoir des espaces bien tondus, avec des espaces qu'on laisse en herbe plus à côté, d'accord, pour le plaisir d'avoir un espace bien tondu, mais aussi pour avoir le plaisir de la diversité et de la vie qu'on va avoir et de l'effort en moins qu'on va produire pour enlever toutes ces herbes, qu'il faudra quand même faucher à un moment donné. Excusez-moi, je reviens là-dessus, sur la question de la tonte. Un des premiers éléments auxquels on doit penser, c'est d'avoir des tontes les plus hautes possibles, puisque c'est un peu contre-intuitif, mais plus on tond haut et moins on tond souvent. Puisque plus on tond bas, plus on va stresser la plante, plus elle va devoir faire un effort pour pousser, et pousser vite, d'accord ? Et en plus on tond bas, plus on va soumettre le sol aux excès climatiques, en particulier au risque de coups de soleil qui fait griller la pelouse très rapidement. Donc, en matière de tonte, je vous invite à monter le plus possible la lame de la tondeuse. Aujourd'hui, dans les collectivités qui sont vigilantes par rapport à ça, avant on tondait à 3-4 cm, maintenant on monte à 8, 10, voire 12, c'est pas rare, 12 cm. Alors 12 cm de haut, ça fait pas un gazon très très ras, mais en fait ça fait un gazon très vert et qui reste toujours assez, assez beau, puis on s'y habitue très bien, d'accord ? Et on tond moins, on tond beaucoup moins. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que le petit schéma ici représente, hein, le cercle vertueux de la tonte. C'est-à-dire que plus on tond haut, plus on développe les racines et plus ça pousse lentement. Et on a moins de maladies, la plante est plus résistante. Voilà, on pourra évoquer, je laisse encore en suspens quelques éléments sur la tonte, on en parlera peut-être sur les questions et puis sur la table ronde. En tout cas, pour la tonte, excusez-moi si je reviens là-dessus, voilà, mulching, paillage, compostage, et puis après tous les espaces différenciés, c'est-à-dire tondre différemment, et le principe c'est de tondre moins en fait, d'accord ? Ça ne veut pas dire de ne pas tondre du tout, on peut avoir des espaces qui sont très bien tondus comme on l'a vu sur la photo ici à droite. Allez, on regarde les branches et les tailles. Ben, écoutez, on est à la campagne, hein, on se chauffe beaucoup au bois, des grosses branches ça va une fois bien sèches, évidemment on peut les brûler dans le poêle ou dans la cheminée. Vous savez peut-être que le brûlage à l'air libre des végétaux est interdit. Vous le saviez ? Oui. Il est passible d'amende, on en parlera aussi tout à l'heure. En tout cas, C'est pas simplement parce qu'il y a une amende qu'il faut pas brûler. C'est la première raison, c'est parce que on émet une pollution forte, d'accord. Et puis aussi parce qu'on va du coup perdre cette matière. Enfin, moi, je suis très important, très intéressé, sur la question de la santé des sols. Et je trouve que c'est dommage de brûler des végétaux à l'air libre. Donc, on peut quand même garder les grosses branches pour chauffer. On peut évidemment broyer nos branches avec un broyeur. Et puis, il y a la tondeuse qui fait un excellent broyeur. Vous avez ici, vous verrez tout à l'heure, Nicolas pourra nous présenter ses travaux de broyage à la tondeuse, qu'on voit d'ailleurs ici. Voilà. Vous voyez, les branches comme ça peuvent arriver à avoir un broyat qui est assez grossier, certes, mais qui peut être efficace aussi. On peut même passer deux fois ou trois fois. Du coup, je vous invite d'ailleurs à regarder sur le site de la communauté de communes Amberlis-Vaudois-Forez, sur la partie déchets. Il y a une vidéo, c'est cette vidéo-là qui présente très bien le broyage à la tondeuse, entre autres. Voilà. Je voulais vous montrer aussi des espaces dans lesquels on peut stocker des branches. Bon, ça, il y a un effet esthétique évidemment qui est recherché. C'est des branches qui, c'est ce qu'on appelle des haies sèches. Hein, d'accord, c'est l'idée de stocker des branches entre deux séries de piquets parallèles. Et ces branches vont se dégrader progressivement. On ne va pas forcément chercher à les récupérer, mais en tout cas, elles vont former une haie et en même temps, elles vont offrir un havre de biodiversité pour les oiseaux, les reptiles, les insectes, etc. Elles peuvent être végétalisées. Voilà une haie sèche là, qui est végétalisée à son pied. La haie sèche, ça date probablement du néolithique, hein, avant le barbelé. Hein, ça permettait tout simplement de se séparer, de protéger des cultures. Et j'ai retrouvé des gens dans le Puy de Dôme côté Combrailles qui me disaient des paysans qui me disaient avoir pratiqué ça jusque dans les années 65-70. Voilà. Il y avait une culture dans certains endroits. Il y a une culture vraiment de la SH. Donc cette idée de, on a des branches qu'on ne veut pas brûler. Une fois qu'elles ont été consommées, les branches ligneuses par les bêtes, les vaches, les chevaux, hein, les frênes, etc. Si on est trop loin d'un chemin, etc. On les met dans les haies et ça permet de délimiter les parcelles. Voilà. Moi, je trouve que ça permet aussi déjà d'éviter de les embarquer ailleurs. Celle-ci, elle fait 20 mètres de long. Bah, c'est dans mon jardin, pour tout vous dire. Elle fait 20 mètres de long, 1,50 m de haut. 50 cm de large, donc ça fait, il faut calculer, mais ça doit faire 10 ou 15, 10, admettons 10 mètres cubes de bois qui est stocké, d'accord, voilà, que je n'ai pas transporté ailleurs. Voilà. Sur les branches et les tailles, pardon, je reviens ici, et sèche, on en a parlé, tous les autres aménagements qu'on peut avoir. On a parlé tout à l'heure de l'évitement, c'est-à-dire des espèces à croissance lente. Hein, je vous disais, d'abord en termes de prévention, essayons de ne pas produire le déchet en choisissant les bonnes espèces au bon endroit, les arbres. Voilà. Et puis, il y a aussi, tout simplement, hein, les petits tas de branches qu'on peut laisser dans des espaces qui vont favoriser la venue des animaux au jardin. Je pense aux animaux sauvages, le crapaud, le hérisson, etc. Alors, pour finir notre tour des déchets verts, on va parler des feuilles mortes que l'on peut utiliser en paillage. Je pense que parmi vous, certains l'utilisent facilement. On va retrouver les mêmes vertus du paillage. On peut tout simplement les laisser sur place. On n'est même pas obligé de les récupérer pour pailler, hein, si elles ne nous gênent pas parce qu'elles tombent dans un massif de fleurs, etc. On peut composter. Ben, les feuilles, pour le coup, c'est intéressant de les conserver pour le compost parce que ça va nous amener cette matière un peu dure, un petit peu sèche, qui va équilibrer le compost. Et puis on peut les faire composter pendant longtemps pour faire un terreau, quelque chose certes qui ne sera pas très riche mais qui sera un bon support de culture. Voilà. Vous avez ici une petite tour à feuilles, là c'est à côté d'un composteur, donc les feuilles sont stockées pendant l'automne et l'hiver et elles sont réinjectées dans le compost pendant le reste de l'année. Et ici vous avez une vieille culture de haricots. D'été ou début d'automne, vu les feuilles d'ailleurs. Il y avait des haricots et ça a été paillé à ce moment-là. Pourquoi les haricots sont laissés sur place là ? Ouais, voilà. Hein. Je vais vous le répéter. Parce que, en fait, ça fait partie d'une famille de plantes, les fabacées, qui ont la capacité de stocker au niveau des racines de l'azote, qui va en capter dans l'air qui est contenu dans le sol. Et ces nodosités sont des rhizobiums, sont des bactéries qui vont capter l'azote. Ça fait des petites boules blanches. Si vous arrachez un pied de haricot dans une terre qui n'est pas trop riche, vous observerez qu'elle a stocké de l'azote. Et cet azote, si on arrache le pied de haricot, c'est juste dommage de l'enlever parce qu'il est en train d'enrichir le sol pour les cultures suivantes. D'accord ? Et indépendamment de ces nodosités, de ces petites billes blanches-là, les racines et les plantes vont mourir. Et donc, si on reprend notre exposé au début, ça va permettre de nourrir le sol et les êtres vivants. Voilà. La tige. Ouais, la tige, oui. C'est vrai. On la retrouve au printemps. Hein,
Tu peux répéter ta question.
Non, je dis, en revanche, la partie aérienne du haricot se décompose très mal, la tige. Donc, c'est effectivement, moi, je coupe au sécateur rapidement pour laisser les racines avec leur nodosité, et la tige, je la laisse aussi, mais je veux dire que des fois, c'est un peu emmerdant parce qu'on veut mettre autre chose. Mais peu importe, elle reste dans le jardin de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Voilà.
Oui, ça peut aller à côté ou au compost, c'est-à-dire. Voilà. Alors, puisqu'on est dans le jardin, on a fait un petit tour des déchets verts. On va maintenant, pour terminer, amorcer une petite réflexion sur nous, dans nos pratiques, est-ce qu'il vaut mieux favoriser le compost, le paillage, ou les engrais verts, donc les engrais verts, hein, qui sont ces cultures intermédiaires. On parle aussi de couverts végétaux, des cultures intermédiaires entre non productives, pour ainsi dire, je vais mettre des guillemets à productifs, entre deux périodes productives. D'accord ? Donc souvent c'est l'hiver ou début de printemps. Donc ce que je vous propose, c'est d'explorer là pendant. Mon chrono n'a pas marché en fait. J'ai encore 10 minutes. Il reste une demi-heure, donc en 5 minutes, je fais ça pour qu'on puisse après discuter. Merci Gérard. Qu'on explore notre façon de piloter au jardin entre les engrais verts, le compost et le paillage. Alors, le paillage organique de surface, là vous avez une association de cultures, va, on l'a vu tout à l'heure avec vous, limiter les herbes indésirables, particulièrement les annuelles, parce que les vivaces, elles arrivent à percer un paillage sans problème. Ça va protéger le sol du tassement, de l'abattance, de l'érosion. Donc le paillis, ça amortit l'eau, les fortes pluies, l'eau s'infiltre dans le sol. Ça va limiter l'évaporation, donc l'assèchement du sol, et ça va maintenir l'humidité. Et puis ça va aussi limiter les écarts thermiques, lors des canicules ou des écarts jour-nuit, mais aussi ça limite le gel hivernal. On met souvent des bons paillages sur les poireaux pour les arracher pendant l'hiver. Et enfin, le paillage a une vertu importante en termes de biodiversité, puisque dans le paillage, il y a des limaces, oui, mais il y a aussi les prédateurs, staphylins, carabes, orvées, etc. Donc on va maintenir la vie sous le sol. Voilà, donc là, on est sous une culture paillée, on voit des laitues et des oignons. Et puis bien sûr, c'est un gain de temps, parce que du coup, on arrose moins, on désherbe moins, on prend du temps pour pailler, certes, mais voilà, au total, le temps est quand même un peu gagné. Là, encore un paillage. Voilà, on voit ici l'effet du paillage. Ça, c'est une feuille de haricot qui, dans un jardin bien foisonnant de vie, a été complètement grignotée. Voyez, là, vous voyez les vers de terre, vous connaissez, et ça, c'est les crottes de vers de terre, hein, les tuercules, pardon. Ouais, ils sont très gros, c'est au jardin, mais moi je suis sur un sol argilo-limoneux. Donc les galeries des vers de terre tiennent bien, ils se développent, et puis comme je les gave un peu, ils grossissent. Mais les espèces de vers de terre, c'est très lié au sol qu'on a, à partir du moment où on les nourrit bien sûr, mais c'est très lié à la typologie des sols. Le compost, vous connaissez. Vous connaissez. Bon, le principe, c'est simple, hein. C'est-à-dire, c'est de mélanger les matières organiques mortes, les vertes et les brunes. Il n'existe pas un compost. Il y a plein de façons d'utiliser les composts. Le compost, ça va améliorer la structure du sol. Ça va apporter des nutriments pour les plantes. Ça va stimuler la vie du sol, s'il n'est pas trop vieux, parce qu'un compost vieux n'apporte pas beaucoup de vie dans un sol. Et ça va aussi, évidemment, rendre les plantes plus résistantes de par l'équilibre des éléments minéraux qu'elles vont avoir pour manger. Ça va limiter les maladies et les ravageurs. Et cette matière organique va jouer le rôle d'éponge dans le sol. Cette matière organique décomposée, donc ça va permettre de retenir l'eau. Ça, c'est juste une petite illustration au jardin d'un compost dit en anneau, c'est-à-dire qu'en fait, j'amène des matières au fur et à mesure des saisons. Et en fait, je tourne comme ça. Donc là, la circonférence, ça fait une quinzaine de mètres. Je ne sais pas si vous voyez la taille de la pelle. Et du coup, là, je n'ai pas de bac. J'ai en fait des micro-organismes et les organismes tout court, en fait, sont toujours en tournant rond. Je n'exporte jamais la matière. Voilà. Compost en anneau, c'est intéressant pour les grands jardins, bien sûr. Les engrais verts, donc ça, c'est une vue du jardin. Donc moi, je travaille en planche permanente. Donc là, les engrais verts, c'est cette idée que... Ça, c'est une photo d'hiver. Hein, c'est une photo d'hiver où on a des espèces très différentes qui vont couvrir le sol, qui sont déjà semées à cette époque, bien sûr, pour nourrir le sol par les racines et puis par le fait qu'on va les détruire au printemps et qu'elles vont, une fois de plus, nourrir le sol. D'accord ? Là, c'est un mélange d'engrais verts. Donc, il y a plein d'espèces. On ne va pas en parler tout de suite. Si vous avez des questions, on peut y revenir après. D'accord ? Ici, vous avez peut-être que ceux qui connaissent la fleur bleue, la phacélie, c'est ça. D'accord ? Et là, alors soit c'est une moutarde, soit c'est une navette. C'est possible que ce soit une navette, je ne sais plus. Et puis là, vous avez de l'avoine. Alors, on voit les nodosités dont on parlait tout à l'heure avec les haricots. Hein, voilà, ici, là. Donc là, c'est une racine de févrole. Les engrais verts donc, vont fixer le carbone et l'énergie solaire. Donc ça va fabriquer de la matière. Ça va fabriquer du carbone, c'est le principe de la photosynthèse, pour nourrir le sol, nourrir les êtres vivants du sol. Ça structure le sol, j'en ai parlé. Ça protège mécaniquement le sol du soleil et de la pluie. Ça stimule l'activité biologique du sol. On a parlé tout à l'heure de la rhizodéposition, tout ce que ça va apporter en richesse, en éléments minéraux dans le sol. Et bien sûr, ça favorise la biodiversité en surface, en créant des habitats au-dessus du sol. La phacélie attire des insectes pollinisateurs, mais elle n'est pas la seule. Le pois fourrager et la févrole, la févrole peut-être un petit peu moins, mais quoique si. La moutarde beaucoup. Et puis pour certaines, vont capter l'azote du sol sous forme de nitrate. C'est ce qu'on voit ici, pour le restituer pour les plantes. Peu importe, je pense à un raccourci, j'accélère un petit peu. La destruction des engrais verts, donc la destruction des engrais verts peut se faire par le gel, pour les engrais verts gélifs, elle peut se faire par l'incorporation. On aura tout à l'heure un témoignage, par exemple, d'un comment on peut détruire un engrais vert et l'incorporer dans les surfaces, dans les premiers centimètres du sol après l'hiver. On peut le faucher, moi je là c'est un seigle, je crois. Que j'ai coupé à la faucille, tout simplement. On peut le broyer, on peut le coucher, l'écraser, c'est-à-dire simplement l'affaiblir pour qu'il meure, à condition de bien le faire. Il faut quelques conditions pour ça. Et puis, on peut le bâcher. Voilà. L'idée donc, de cet engrais vert, c'est de le détruire avant maturité, bien sûr, puisqu'on ne va pas récolter cette plante. Elle va servir à nourrir les êtres vivants du sol. Voilà la destruction d'un engrais vert. Ici, c'était un pois fourrager. C'est un pois fourrager, il y avait un peu de phacélie dedans. Voilà. Un pois fourrager qui se met au bon moment, au printemps, donc là, je ne sais pas trop à quelle époque c'était, mais printemps, il peut faire facilement 60-70 cm de haut. Hein. Ça produit beaucoup, beaucoup de matière. Voilà, ici, c'est une céréale qui est couchée. Ici, c'est une moutarde qui a été fauchée. Et donc, dedans, dessous, la vie se développe. Alors ça ne se détruira pas vite. Si on voulait vraiment que ça se détruise très vite, il faudrait le broyer. Hein. Là, c'est une planche de phacélie. Alors, en plus, c'est beau. Enfin, moi, je trouve. Voilà, là, c'est une planche qui a été couchée avec un outil. Bon, je parle pas trop dans le détail. Tout ça, c'est des photos de couverts végétaux. Vous voyez, ça fait beaucoup de masse végétale. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire, là ? On est en train de dire qu'il faut fabriquer du déchet vert quand on est jardinier. On est en train de dire qu'il faut... Enfin, il faut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais que non seulement cette matière organique, on ne va plus chercher à s'en débarrasser, mais on va chercher à en produire. Parce que c'est ce carburant qui va venir nourrir les êtres vivants du sol, qui vont minéraliser et qui vont apporter des propriétés physiques et chimiques dans nos sols. Donc, cette idée... Alors là, c'est un essai. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante. C'est une fleur, c'est un chardon-marie. Ouais, parce qu'en fait, je vous ai dit que je faisais de la culture de semences de fleurs sauvages. Et en fait, là, j'ai un chardon-marie qui s'était bien développé dans une parcelle. Et donc, du coup, je l'utilise comme un engrais vert. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, ça, c'est pas du tout orthodoxe comme truc. Parce que le chardon-marie, c'est inannuel, donc il se développe pas trop. Il a une grosse racine pivotante, donc ça fait un super engrais vert. Alors, par contre, bottes et combinaisons quand on rentre là-dedans. Hein. Chardon-marie, aïe, aïe, ça pique. Voilà. Et là, vous voyez de l'occultation, désherbage par occultation avec des bâches. Là, vous avez de la moutarde et le chardon-marie qui a été détruit. Alors, pour terminer, en une minute. Alors non, ça ne va pas être une minute. On va essayer d'aller un peu plus vite. Le paillage va permettre de travailler sur la nature du sol. Non, pardon. Alors, attendez, on va pouvoir... Le pilotage, pardon, excusez-moi. Le pilotage entre les engrais verts, le paillage et le compost va se faire en fonction de la surface cultivée, en fonction des ressources internes qu'on a au jardin. Ben, on paille quand on a de la matière pour pailler. En fonction des ressources externes locales, on peut aussi chercher de la matière à l'extérieur. Là, je suis en train de dire maintenant qu'il faut chercher des déchets verts à l'extérieur du jardin. En fonction du climat local, en fonction de notre choix de développer la biodiversité, de notre temps disponible, et bien sûr, chose essentielle en matière de jardinage, vous le savez, c'est la nature du sol. Quelle est la texture de notre sol? Et de ça va impacter beaucoup notre choix entre engrais verts, paillage, compostage. Allez, je vous montre deux, trois petits exemples et après on passe aux questions. Ici, je vous ai dit tout à l'heure aussi en début d'exposé qu'on limite au plus possible le travail du sol. Là, j'avais récolté la culture, j'avais semé en place en octobre de la phacélie et du pois fourrager, donc sans travail de sol. Je n'ai pas touché au sol, pas un coup de grelinette. Donc je suis en terre argilo-limoneuse, moi. Voilà. J'ai recouvert de compost très mûr, compost stabilisé, que j'ai tamisé à 0,5 mm. Non, pardon, c'est pas, je l'avais tamisé, mais surtout, j'en avais mis 1,5 cm. Ben voilà, donc ça, c'était en octobre. Ça a germé en dessous. La destruction de l'engrais vert, ça a été au mois de mai. J'ai planté les tomates en écartant la matière organique qui était encore à moitié décomposée. Et après, j'ai repaillé avec un peu de tonte fraîche pour alimenter. Voilà un exemple d'un itinéraire cultural où on se passe du travail du sol. D'accord ? Je ne dis pas que c'est toujours possible dans toutes les conditions, mais en tout cas, ici, ça a été possible. Donc ça, c'était en fonction de la nature du sol. D'accord ? Par exemple, sur les sols lourds, c'est plus difficile à faire parce qu'il faut que les sols soient bien décompactés. Ici, j'ai semé un engrais vert dans mes cultures de tomates. Alors moi, je cultive des tomates en cage, comme ça. J'ai semé une céréale pendant la culture de tomates. Et donc, en fin de saison, j'avais début d'hiver, j'avais en fait ici mes tomates fanées et l'engrais vert qui avait poussé au milieu. Et après, pendant en fin d'hiver, j'ai bâché pour que l'engrais vert meure et qu'il soit mangé par les êtres vivants. Voilà. Là aussi, pas de travail de sol. D'accord ? En fonction de la surface cultivée. Quand on a une petite surface de jardin, eh ben bien sûr que c'est plus simple d'avoir du compost. D'accord ? Quand on a une grande surface de jardin, on ne peut pas mettre du compost partout. Donc j'ai considéré que le compost allait bien pour les petits jardins, le paillage pour les jardins petits à moyens, et les engrais verts, ben c'est dès qu'on passe sur des espaces plus grands, parce qu'en fait, on n'a pas assez de matière pour couvrir, alors que l'engrais vert, c'est une petite graine qu'on peut mettre sur les grandes surfaces. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en agriculture, hein. En grande culture céréalière, ceux qui ne veulent pas travailler le sol, ils cultivent des engrais verts, tout simplement. C'est le seul amendement qu'ils peuvent faire. Le paille. Alors, je vous ai parlé de notre choix dans ce... Ah, ça, c'est que j'ai dépassé le temps, non ? C'est Gérard qui va couper. Non, c'est pas toi. Allez, c'est bientôt fini. Je vous ai parlé dans ce pilotage-là entre engrais vert, paillage et compost en fonction de la ressource de la matière organique interne au jardin. Quand on découvre les vertus du paillage, on se met à faire pousser des plantes pour le paillage. Ici, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est du cardon. C'est le cardon. Hein, voilà. Donc le cardon, c'est une plante extraordinaire, déjà parce que c'est extrêmement bon en première année, c'est une plante vivace, mais surtout après, ça produit un immense, beaucoup, une grosse biomasse, beaucoup de végétation, qu'on peut couper deux, trois fois par an, et qui produit une grosse quantité de paillage. Donc là, vous voyez, c'est une parcelle que j'ai paillée au cardon, tout simplement. Je ne me rappelle plus dans quel itinéraire exactement. On peut avoir beaucoup de feuilles mortes, voilà, des poireaux paillés avec des feuilles mortes. Donc ça va dépendre de notre ressource interne. D'accord ? Ça peut aussi dépendre, notre pilotage entre paillage, compost et engrais vert de notre matière externe, locale. Moi, j'ai la chance d'avoir du fumier de cheval à côté de chez moi. Donc, je vais chercher du fumier de cheval, on me le charge dans la remorque, je le décharge, je fais des couches chaudes, on n'en parle pas tout de suite. Et en tout cas, après, je récupère ça pour pouvoir, alimenter le jardin en compost bien décomposé. Ça va dépendre de notre climat local. Moi, je suis dans un endroit à côté de Vic-le-Comte où il fait très sec, 550 mm d'eau par an en moyenne. Donc, planter de la mâche, c'est compliqué. Parce que la mâche, ça se plante en fin d'été, dans un endroit où il fait très chaud. Et pourtant, il faut un peu de fraîcheur pour que ça pousse. Donc là, semis de mâche avec de la facélie. J'ai mélangé un mélange de facélie et de mâche au 1er septembre. La facélie germe très vite. Donc ça, on ne voit que la facélie. J'ai couvert de compost aussi pour ne pas toucher au sol. Et puis, j'ai désherbé la facélie quand elle avait 10-15 cm. Je l'ai arrachée à pleine poignée. C'est une petite planche, hein. Je ne suis pas maraîcher, moi, hein. Je suis jardinier. Mais bon, ceci dit, ça va très vite. Je l'ai arrachée à pleine poignée. Et en dessous, il y avait quoi? Il y avait la mâche qui est sortie. D'accord, elle est sortie à l'ombre de la facélie, à un moment où il fait très sec. D'accord, donc là, l'engrais vert, il me permet ça. C'est un engrais vert qui a permis ça, en fait. D'accord, et j'ai détruit, on a mangé de la mâche abondamment, n'est-ce pas? Et après, elle a été détruite. Le reste de mâche qu'on n'a pas pu consommer, elle a été détruite. Et donc, ça a été aussi utilisé comme un engrais vert, finalement. Voilà. Moi, j'ai envie de biodiversité, donc je vais amener des espèces qui favorisent la biodiversité. Ça c'est un orthoptère, une sauterelle sur un pois fourrager. Il y a des coccinelles. Voilà, donc ça, c'est les engrais verts permettent ça. Ici, vous avez un bon signe d'un jardin qui fonctionne bien, puisqu'ici, on a des larves de pucerons sur de la moutarde, un engrais vert. Ces larves de pucerons ont été parasitées par une petite guêpe parasitoïde qui est venu pondre dans des larves de pucerons vivants un œuf qui s'est développé dans le puceron vivant. Et le puceron vivant s'est fait grignoter de l'intérieur par cette petite aphide, une guêpe parasitoïde. D'accord ? Et donc, toutes ces larves, toutes ces petites guêpes-là, se sont développées après dans le jardin. Et ça, c'est l'engrais vert qui a permis ce support-là. D'accord ? Là, vous avez une larve de cirf. On est en novembre, hein, donc on est tard dans la saison déjà. Vous avez une fleur de moutarde et vous avez un cirf adulte, on a un petit diptère, une mouche, qui va pondre aussi, lui, des larves qui vont se nourrir de pucerons. Et on sait que plus la floraison est tardive dans les jardins, plus les pontes de cirf au printemps seront abondantes. Pontes, larves qui mangent les pucerons. Voilà, et puis du temps disponible, bien sûr. Pailler, ça prend du temps. Faire du compost, ça prend du temps. Faire des engrais verts, ça prend un peu moins de temps. Puis après, il y a des questions esthétiques, économiques. Ici, j'ai fait des essais d'engrais verts avec de la chicorée, qui a une racine pivotante. Alors, c'est une plante bisannuelle à vivace, donc ce n'est pas facile à se débarrasser. Mais par contre, c'est une racine pivotante qui est intéressante comme engrais vert. Voilà, là, je vous ai mis, pour terminer, un petit récapitulatif de la saisonnalité entre les composts qu'on peut appliquer automne, printemps, le paillage chez moi plutôt hivernal, le paillage plutôt estival et les engrais verts plutôt automne-hiver. Allez, j'arrête. Et on passe aux questions. C'est parti.
On pourrait déjà le remercier, je pense, si vous voulez bien. Donc le principe pour les questions, vous levez votre doigt et vous dites votre prénom et de quelle commune vous venez. C'est plus sympa et ça crée du lien. Qui veut démarrer ?
Bonjour, Sonny de Champetière. Moi, je suis une jardinière très débutante, alors ça va peut-être être une question bête, mais tout à l'heure, on a beaucoup parlé de tonte et je me demandais pourquoi on tonte ? Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est juste esthétique ?
Alors, une petite réponse très rapide. Alors, il y a forcément de l'esthétique qui rentre en compte là-dedans. Si on ne tond pas, on va avoir le développement d'une végétation naturelle qui va aller vers la forêt en quelques années, tout simplement. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la tonte, la première année, c'est de l'herbe. La deuxième année, ça peut être encore de l'herbe. Puis, on voit apparaître des plantes. Alors, selon les endroits, selon les sols, on voit apparaître des plantes à tiges plus ou moins dures. En deuxième ou troisième année, on voit arriver très rapidement les ronces. Qui ont une grosse capacité de reproduction et de développement. Et à terme, après, on commence à arriver à voir les espèces ligneuses. Par exemple, chez moi, ça va être des cornouillers, le cornouiller sanguin, qui est une espèce qui se développe très vite. Ligneuse, c'est-à-dire des petits arbustes. Voilà. Ou des genêts sur des sols plus acides. Moi, je suis sur un sol argilo, je suis sur un sol calcaire. Donc, en fait, on va avoir progressivement une évolution vers une strate d'abord arbustive, puis arborée. Voilà. Donc, en soi, ce n'est pas un problème. C'est juste, du coup, notre espace, il va se refermer. Il n'aura plus les mêmes fonctions sociale qu'on veut quand on a un jardin avec de la tonte. Voilà. Mais si on fauche même tardivement, c'est-à-dire une fois par an, on coupe là, cette dynamique de recolonisation forestière. Donc en fait, effectivement, si pour répondre à votre question, tondre régulièrement, c'est esthétique, on pourrait très bien tondre une fois par an pour ne pas se faire envahir, j'aime pas trop ce mot, mais par les ronces, etc.
Oui, Fabrice, commune du Bourgeron. Plusieurs fois, je vous ai entendu parler, vous avez dit, je n'ai pas touché le sol. Alors ma question, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne faut pas bêcher son jardin ?
Alors, ouais, je vous ai montré des exemples un peu extrêmes, surtout sur des sols comme je suis moi, argilo-limoude, qui se compactent très fort. D'accord ? Donc, pour être complètement réaliste et honnête avec vous, je n'avais pas travaillé le jardin, mais moi, je le travaille quand même ponctuellement. Par moment, surtout quand mon calendrier ne me permet pas de faire les opérations au bon moment, avec un outil type grelinette, peut-être que vous connaissez, c'est un outil qui ne retourne pas, mais qui permet de monter la motte, de l'aérer. Voilà. L'idée, en fait, quand on dit de ne pas toucher le sol, ce n'est pas un dogme, hein. En fait, on a le droit de passer la grelinette. L'idée, c'est quand même le moins possible de retourner le sol, d'abord, parce que l'activité biologique du sol, elle est très forte, du fait des organismes vivants dans les tout premiers centimètres. Donc ça, déjà, c'est un élément perturbateur. Et si on travaille le sol, il est vraiment conseillé de plutôt le travailler en soulevant la motte plutôt qu'en passant des objets qui vont plutôt être coupants. Parce que c'est là où on va, à partir de 15-20 centimètres, qu'on va commencer à détruire le réseau mycélien, des mycéliums qui sont responsables de la bonne santé du sol. Voilà. Mais... voilà, j'insiste qu'il n'y a pas de dogme par rapport à ça. Il faut aussi avancer comme on peut. En tout cas, quand on ne veut pas trop retourner le sol, il faut avoir déjà un précédent, je dirais, en termes de nourriture, de vie du sol. Il faut qu'il y ait des vers de terre, enfin, il faut que ça carbure en dessous, parce que en fait, il y a toujours... Quand on dit qu'on ne retourne pas le sol, pardon, c'est que le sol doit toujours être aéré. Aéré, poreux. Il doit y avoir de la porosité dans le sol. Donc, si ce n'est pas mécanique, il faut que ça soit fait par les êtres vivants. Donc, ça se construit sur du moyen, voire du long terme. Ça. Voilà. Voilà. En tout cas, une chose est facile à tester. Plutôt que de, enfin, là, du coup, je vais être un peu plus radical. Plutôt que de se casser les dos avec la bêche, autant utiliser des type grelinette. Parce que du coup, il y a déjà un élément ergonomique qui est hyper intéressant, c'est qu'avec une grelinette, on n'a pas le dos tordu. Quoi. Voilà.
Agnès, commune de Novacelle, qu'est-ce que vous entendez ? Enfin, j'aimerais connaître ce que vous entendez par compost vieux et compost jeune, le temps de décomposition. Voilà. Oui.
Alors, on a encore 2-3 heures ? Non, je regarde les collègues d'Ambert-Livrois-Forez parce qu'il y a des formations qui traitent de ça. Attendez, il est où mon compost jeune. Alors, ça, c'est très relatif. Ça va dépendre des matières qu'on met dans le compost et de la façon dont on le fait. D'accord ? Mais globalement, pour vous donner quelques éléments, quelques repères, un compost jeune, c'est déjà un compost qui n'est pas stabilisé, qui n'est pas complètement mature, c'est-à-dire dans lequel il y a une activité biologique encore assez forte, qui va donc libérer des éléments minéraux. Et qui va donc avoir une fonction plutôt d'engrais. C'est un compost qui va avoir, en général, pardonnez-moi des approximations parce qu'on ne peut pas être plus précis, mais moins de 6 mois, ça c'est sûr. Voilà. Je dirais entre 3 et 6 mois. D'accord ? Un compost vieux, c'est un compost qui commence à aller au-delà de 1 an. D'accord ? Et un compost vieux, il va avoir un effet amendant dans le sol, c'est-à-dire il va aider à la structuration du sol, il va amener des matières organiques dans le sol, mais il ne va pas nourrir directement la plante, pour ainsi dire. Et c'est pour ça que le compost vieux, on va le mettre plutôt à l'automne, parce qu'il y a moins besoin de nourrir les plantes à ce moment-là. Et en plus, dans le sol, il y a un pic de minéralisation, c'est-à-dire la minéralisation spontanée, elle n'est pas très forte à l'automne. Voilà. Donc, compost jeune plutôt au printemps, voilà. Mais attention au compost trop jeune qui pourrait, entre guillemets, brûler les plantes, c'est-à-dire qu'un compost de moins de 3 mois pourrait avoir des effets nocifs sur la croissance des plantes. Voilà. Globalement, retenons, pour être simple, qu'un compost entre 6 mois et 1 an peut être utilisé sans trop de distinction printemps-automne. Printemps-automne, quoi, entre 6 mois et 1 an. Voilà. Si le compost est bien fait.
J'ai une petite remarque au niveau du compost. C'est-à-dire que quand on met du compost mûr, ça veut dire que l'azote est un peu dissipé. Et donc, on peut semer des petites graines, puisque les petites graines, elles n'aiment pas du tout, enfin, à part les graines de potiron ou de tomate, mais la petite graine classique de salade, de carotte, elle a horreur de l'azote au départ. Donc, un compost mûr va aller pour ce genre de choses, mais pas pour... Mais le compost pas mûr, justement, il ne faut pas le mettre pour les semis.
Alors, en fait, c'est là où... Si, je comprends. Enfin, pour moi, c'est clair. La remarque, c'est un compost pas mûr va être embêtant pour les semis, puisque ça va mettre de l'azote, et dont certaines espèces sont fragiles. En fait, ça va dépendre des espèces. Il y a un test qui est intéressant à faire, ce qu'on appelle le test du cresson. Le cresson qui est une espèce qui est assez sensible justement aux excès azotés et qui pousse très vite. Donc c'est un test qu'on peut faire rapidement. On va mettre du cresson dans notre compost, on va voir s'il germe. À partir du moment où il germe, c'est qu'il y a une sensibilité moindre à ce compost peu mûr. S'il ne germe pas, c'est qu'il y a un risque de brûlure. On va faire avec des mots simples. Un compost, en fait, ce qui est délicat, c'est d'arrêter le jeûne, le pas jeûne. C'est-à-dire que l'idéal pour la laitue, qui est plus résistante que le cresson, c'est quand même d'avoir une terre dans laquelle il peut y avoir un compost un peu puissant, d'accord, mais pas trop jeune. Voilà, d'accord. Je ne veux pas trop vous embrouiller avec tout ça, mais sachez aussi de toute façon, pour être réponse complète, qu'une fumure sur un itinéraire cultural, une fumure peut arriver en cours de route. Hein, voilà. Typiquement le poireau qui est une culture très longue, ça peut être très intéressant d'amener un compost un petit peu un nouveau compost en début d'automne parce qu'il est encore en pleine croissance, donc on peut très bien avoir un sol fumé en début de culture modérément et puis refaire une fumure en cours de culture.
On va prendre une dernière question avant la pause et puis après vous aurez mille occasions de réintervenir.
Soulange Ambert, moi j'ai un souci avec les feuilles de cerisier, parce que je trouve que c'est très très long à se dégrader. Donc j'en fais un tas, je les conserve au maximum et puis ça reste sur place. Alors comment je peux utiliser ces feuilles?
Et le tas, il devient quoi après? Le tas devient quoi?
Oh, il reste sur place.
Oui, mais il ne reste pas pendant des années.
Ah si. J'ai des tas, des certains endroits qui restent comme ça.
Et vous l'aérez un peu, vous le...
Non, je ne touche pas. Non, non, non.
Alors, c'est un peu ce qui est conseillé.
C'est tellement long à se dégrader que je le laisse en tas.
Ben, c'est peut-être parce que vous le laissez en tas, justement. Peut-être que vous avez intérêt à le retourner, ne serait-ce qu'une fois. Voilà.
Servir en paillage.
Ah si.
Si.
Ah ben si, feuille de cerisier, si. Alors...
Alors,
non. Si en fin d'été, enfin en ce moment les feuilles de cerisier sont déjà bien tombées là, vous pouvez l'utiliser en paillage sur votre potager ou les garder en tas et les utiliser l'été prochain si ça reste très longtemps. Moi, le paillage hivernal sur des... Alors, excusez-moi, je parle du sol lourd, je le déconseille parce qu'il y a une compaction qui se fait quand même, d'accord. Si vous êtes sur des sols légers, le paillage fonctionne bien pendant l'hiver, d'accord. Mais je trouve que c'était le sens de mon calendrier, là, que la meilleure façon de nourrir un sol en intersaison, pour moi, c'est les engrais verts. Voilà. Mais par contre, les feuilles de cerisier peuvent bien être utilisées en paillage pendant l'été. Il n'y a rien qui est gênant par rapport à ça.
Ça y est. Ils ne sont pas dégradées, les feuilles, pour le printemps suivant.
Mais si elles ne sont pas dégradées, vous pouvez les utiliser en paillage, justement. Vous voyez ?
Je vais enlever les feuilles.
Alors, l'idée, c'est vous gardez les feuilles en tas, et puis après, on en discutera en mangeant des tartinades. Vous gardez les feuilles en tas, tranquillement jusqu'au printemps, vous faites vos cultures de printemps. Quand le sol est bien réchauffé, allez, admettons sur les tomates ou les cucurbitacées, peu importe, ou les haricots, vous ressortez vos feuilles de cerisier et vous paillez entre les pieds de tomates, de haricots et de courges. Vous, eh ben, faites un mélange. Tomates, ça y est, je suis dans la cuisine. On parle de tartinade. Non, vous faites un mélange gazon et feuilles et vous aurez une matière très intéressante pour les organismes du sol. On va peut-être terminer en parlant des organismes du sol qu'on nourrit avec tout ça, avec les déchets verts.
Merci Pierre, merci pour toutes vos questions. Donc pour ceux qui connaissent pas la maison, donc là maintenant c'est le moment des tartinades. Donc ça veut dire que le choix qui a été le nôtre depuis le début, ça a été de vous nourrir sainement. Donc avec avant tout des produits du jardin, de potager d'ici. Donc vous allez avoir trois tartinades de légumes, donc avec trois saveurs différentes qu'on vous laisse découvrir. Jouez le jeu de ne pas les regarder tout de suite. La description des, parce que vous avez sur les tables la description des tartinades avec quoi elles ont été préparées. Et puis, comme on avait remarqué au tout début de notre histoire des Utopiades, que certaines personnes quand même se sentaient frustrées de ne pas avoir de charcuterie. Il y a aussi des produits donc des produits donc carnés, on va dire. Je racontais tout récemment à une réunion des Utopiades qu'en fait j'avais remarqué au tout début que certaines personnes qui avaient pas hésité à pousser la porte de la gare d'Utopie à l'époque, là où ça se passait, les Utopiades au départ. En fait, des personnes n'osaient pas s'approcher du buffet parce que pour ces personnes-là, c'était complètement nouveau que d'aller mettre des tartinades de légumes sur du pain. Donc, quelque part, on avait un peu cassé le lien qu'on voulait absolument créer et il manquait ces repères pour ces personnes. Et on a souhaité ne pas les laisser sur le côté, surtout que parmi ces personnes-là, il y a vraiment des personnes qui participaient vraiment bien vivement aux soirées avec des questions tout à fait pertinentes. Et c'était vraiment dommage de les voir ne pas se régaler, quoi. Voilà. Donc, faites-vous plaisir. Il y a aussi au niveau des boissons, donc vous avez deux types de vins, donc blanc et rouge, qui sont des vins bio, qui viennent du sud-ouest. Ça, c'est plutôt moi qui ai impulsé ça, mais on pourra tout à fait changer dans quelques temps avec des vins qui progressent complètement dans notre région. Donc, on pourra aussi tout à fait proposer des vins d'Auvergne. Voilà, on se donne rendez-vous dans une demi-heure. C'est sympa de respecter cette demi-heure parce que faut qu'on redémarre derrière sur la table ronde. Et surtout, que ce qu'on aime bien aussi, c'est respecter l'horaire final, 22h30, pour que vous puissiez repartir chez vous. On sait que certains vont retravailler demain. Et voilà. Donc, régalez-vous et puis n'hésitez pas à vous rapprocher de Pierre qui a peut-être aussi envie de manger un truc. Hein. Voilà, et puis on se retrouve tout à l'heure dans une demi-heure.
Il suffira d'une étincelle, d'un mot.